Les muses s'amusent. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Parler des installations, mais c'était une digression. Nous avions parlé surtout de Kandinsky. Kandinsky, donc l'inventeur de la peinture abstraite en 1911. Même s'il y a des gens qui disent que Picabia a fait une œuvre abstraite un peu. Bref, on s'en fiche. On va dire que l'art moderne, vraiment, a changé complètement à partir de 1911. Et il va cultiver quatre principes essentiels. Premier principe. Un véritable artiste, un artiste authentique, invente ses propres signes. Je m'explique. Les peintres-pompiers, tellement détestés des impressionnistes et puis des peintres modernes, peignaient tous avec, en gros, les mêmes signes. D'ailleurs, ils voulaient montrer le moins possible des signes dans leur peinture parce qu'ils essayaient de n'être que représentation. Mais après eux, la représentation comptant de moins en moins, pesant de moins en moins dans l'œuvre, ce qui importe, c'est de trouver des signes que personne n'a trouvés avant. Deuxième grand principe. L'une des manières d'inventer ses propres signes va consister à inventer sa propre manière, sa manière personnelle, de renouveler ou assassiner la boîte de scène, cette boîte de scène dont nous avons longuement parlé dans l'émission précédente. Alors, je vais vous donner trois exemples. L'un des artistes les plus décriés par les personnes qui n'aiment pas l'art moderne, c'est un Italien, Fontana. Et Fontana, il a peint, repeint, refait, mille fois refait, quelque chose qu'il appelait concetto spaziale, concept spatial. Et très franchement, qu'est-ce qu'il fait le Fontana avec son concept spatial? C'est très simple. Il prend une toile, il place de la peinture dessus, monochrome, et puis avec un couteau, flaf, il fait une balafre dedans. Bref, le jeu de Fontana avec la boîte de scène, ça consiste à prendre ce qui fut le support de la boîte de scène, la toile plate, et rappeler qu'elle était un mensonge, puisqu'en fait elle n'était pas plate, mais bien en trois dimensions, pas deux. Une toile, c'est quand même un peu épais. Et donc la preuve des trois dimensions de la toile, c'est qu'on peut la trouer. Bon, tout à fait entre nous, vous allez me dire, c'est de la distillation d'essence de quintessence. On est bien d'accord, et Fontana n'est pas un homme si important, mais en revanche, pour nous, pour comprendre, ça permet d'être un peu plus clair. Un autre artiste qui a su assassiner la boîte de scène à sa propre manière, c'est le Hollandais Escher. Escher, tout le monde connaît, c'est cet artiste qui fait des drôles de scènes où on ne sait plus ce qui est le haut, le bas, la droite, la gauche, où on voit des escaliers qui débouchent sur d'autres escaliers qui retombent et qui remontent et puis qui retombent et puis qui remontent mais dans l'autre sens et qui repartent encore ailleurs, où ces mains qui dessinent une main, qui dessinent une main, qui dessinent une main, qui dessinent cette main, qui dessinent la même main, qui dessinent... Et ce que fait Escher, c'est que il semble imbriquer deux, trois, quatre univers différents. En fait, il imbrique deux, trois, quatre boîtes de scène différentes. Encore un artiste pas très très connu, en dehors du public fanatique ou du public des connaisseurs, le français Jean-Pierre Reynaud. Et Jean-Pierre Reynaud, il a déposé à Beaubourg une œuvre qui est l'une des rares œuvres qu'on expose toujours. Vous savez que Beaubourg change son accrochage à peu près tous les 18 mois, Mais cette œuvre de Jean-Pierre Reynaud, elle est toujours là. Et qu'est-ce que c'est? C'est un container. Un quoi? Bah oui, un container. Ces grosses boîtes qu'utilisent les cargos pour transporter toutes les marchandises possibles. Donc c'est un objet standardisé. Mais c'est donc une boîte. Et évidemment, Jean-Pierre Reynaud voulait là jouer sur l'idée de la boîte de scène, d'autant plus que son container, il est toujours présenté ouvert, mais ouvert d'un seul côté. Et dedans, eh bien Jean-Pierre Reynaud avait déposé des carreaux de céramique blanche, mais de telle façon que ça évoque irrésistiblement une scène de théâtre. Cette œuvre de Jean-Pierre Reynaud, c'est exactement une boîte de scène. Troisième principe. De ces deux principes qui sont sur les signes, eh ben on va déduire le troisième. Si un, il faut inventer ses propres signes. Deux, s'il faut triturer, massacrer, développer, imbriquer la boîte de scène, alors beaucoup d'artistes modernes vont se lancer dans des créations qui délibérément vont mélanger signes et représentations, voire, encore mieux ou encore pire, délibérément engendrer la confusion entre les deux. C'est-à-dire qu'on va créer des éléments visuels dont on va se demander « mais c'est une représentation ou c'est un signe ?» Vous allez me dire « mais attendez, c'est pas, on peut pas les confondre. » Oh que si. Vous voyez Keith Haring, ce gars qui venait de l'art du tag et qui fait toujours le petit bonhomme en silhouette. Attendez, ce petit bonhomme en silhouette, c'est un logo ? Ou c'est une représentation? C'est un signe ou une représentation? Quand Jasper Jones peint un drapeau américain, ou quand il peint un chiffre 5, en général avec la même police de caractère que sur les billets de 5 dollars américains, il peint une représentation ou un signe? On ne sait pas très bien. Quand Georges Mathieu, le peintre réac, quand il peignait ses éclairs et ses sabres, ou, souvenez-vous peut-être, quand il les transformait en images de la France sur les pièces de 10 francs, c'était une représentation ou un signe? Délibérément, on ne peut pas choisir. Et donc on peut énoncer ce troisième principe autrement, on peut dire... Il n'y a plus de monopole de la représentation n'est plus qu'une modalité de l'art parmi beaucoup d'autres, et on peut la mélanger avec tout ce qu'on veut. Thank you. dernier principe, comme nous en avons déjà parlé dans la première émission, ce que veut l'art moderne, c'est de recruter la personne qui voit, de recruter les spectatrices, les spectateurs, de les forcer à jouer leur rôle de second créateur et créatrice. Et paradoxalement, ce désir intense d'impliquer les spectatrices, d'impliquer les spectateurs, donc d'entrer en rapport avec ces gens qui regardent, eh bien, paradoxalement, ça va donner naissance aux formes d'art qui vont provoquer les protestations les plus stridentes contre l'art moderne. En particulier, les happenings. Alors, ça se fait plus beaucoup, ça se faisait beaucoup dans les années 60, dans les années 70, où ça choquait le bourgeois. Qu'est-ce qui se passait? On voyait l'artiste, femme, homme, ça, c'était encore plus violent évidemment quand c'était une femme, qui déféquait, qui répandait son propre sang, hein, qui se mutilait, qui se faisait saigner en public, qui vomissait, qui souffrait en public. Pourquoi? Parce qu'il voulait, elle et il voulait, s'adresser à ce que nous avons tous en commun, ce qui est en nous le plus profond, mais donc aussi le plus partagé, le corps. Mais qui veut faire l'ange, fait la bête.
Ce qui concerne les happenings, effectivement, c'est les années 60 et 70 où c'était quelque chose de très fort. Avec, bon, il y avait le living, il y avait tout ça. Mais ça a commencé avec les surréalistes et alors, les dadaïstes.
Déjà,
ils faisaient déjà des happenings. On ne les appelait pas comme ça, mais bon.
On va dire la seule différence entre les happenings des surréalistes dadaïstes d'une part et les happenings, on va dire, explicites des années 60 et 70, c'est que le but était donc légèrement différent. Avec les dadaïstes et les surréalistes, il s'agissait d'exploser tous les cadres, donc également d'exploser le fait qu'une œuvre était censée être une œuvre pérenne, éternelle, Alors qu'un happening, c'est un événement, donc c'est éphémère, ça va disparaître. Et il y avait moins ce désir d'entrer en communication directe avec le corps des gens qui regardent. C'était présent, mais c'était beaucoup moins central que ça ne l'a été dans les happenings des années 60-70, et puis également dans les happenings d'une artiste célèbre pour ça, Marianna Abramovic, dont on sait qu'elle a fait des tas de choses extrêmement douloureuses pour elle, et par conséquent également douloureux pour les gens qui regardent, puisque nous les êtres humains, notre cerveau est équipé de neurones miroirs, qui sont la base de l'empathie, et quand on voit quelqu'un souffrir, si on n'est pas totalement psychopathe, normalement, on se sent en un sens souffrir aussi.
Dans un certain sens, les deux formes, disons, de happening, c'est-à-dire des surréalistes dadaïstes, c'est-à-dire dans les années 20, et ensuite celles qui ont commencé avec le Living Theater, etc., dans les années 60 et 70, pas cette période dont tu parles, qui est après, venue après. Mmh. Au tout départ, les deux étaient profondément politiques. C'est-à-dire que ça remettait en question les normes, comme tu as dit, mais pas seulement les normes visuelles, mais aussi les normes
sociales, politiques. Voilà. Alors, à nouveau, on pourrait le dire vulgairement, il s'agissait de choquer le bourgeois. Très clairement, dans les deux cas, il s'agissait de choquer le bourgeois. Mais souvenons-nous que, par exemple, dans les années 50 et 60, la répression sexuelle, le patriarcat, le statut des femmes, tout ça est encore relativement incontesté, en tout cas du point de vue officiel. Et puis tout d'un coup, grâce entre autres au happening, tout d'un coup voilà des gens qui disent « mais désolé, la sexualité existe, la sexualité est montrable, la sexualité est également violente, elle peut être également vécue par des opprimés et ES ». Et donc, là, c'est évident, les happenings ont tous eu une volonté politique très claire. Attention, cela dit, il y a eu des artistes qui ont mal tourné. En particulier, il y a eu un artiste allemand qui faisait des actions et qui a terminé en gros en secte, où il y a eu des tonnes d'abus sexuels sur des mineurs, sur des tas de gens.
Ça n'était pas au départ, si tu veux, la motivation essentielle. La motivation, elle était essentiellement politique de remettre, elle était subversive.
Dans les deux cas, complètement.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux cas, il y avait le happening, c'est-à-dire en expression directe auprès d'un public, mais il y avait en même temps, et dans les deux cas, que ce soit dans les années 20 ou avec les années 60 et 70, il y avait le cinéma. Et à travers le cinéma, on voit certaines scènes qui ont été filmées, etc., d'une sorte de continuation du happening. C'est une autre forme de contestation, que ce soit donc à travers la peinture, que ce soit à travers les mots, que ce soit à travers le cinéma, etc. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait feu de tout bois. Théâtre.
En plus, l'expression « faire feu » est là tout à fait pertinente. Alors, justement, une conséquence fréquente de cette motivation politique d'impliquer la personne qui regarde, eh bien, ça implique donc de détruire la hiérarchie entre l'artiste, en haut, au-dessus, et la spectatrice, le spectateur, en bas, en dessous. Pour détruire cette hiérarchie, va y avoir, entre autres, deux méthodes opposées. Une première méthode, ça va être de détruire la majesté de l'artiste, ça va être d'abaisser l'artiste. Et la méthode exactement inverse, ça sera d'élever les productions des créatrices et des créateurs non professionnels, non reconnus, de les élever au statut d'œuvre d'art. C'est Marcel Duchamp qui, le premier, va saper la majesté de l'artiste en sapant la majesté de l'œuvre d'art. Comment ? Eh bien, grâce à ces très célèbres ready-made, donc un ready-made, c'est ce qui est déjà fait, déjà fabriqué, qui vont faire, à très juste titre, scandale, quand on pense que c'est en 1917, qu'il envoie, enfin, plus exactement, qu'il tente d'exposer à la Société des artistes indépendants un urinoir industriel, ces espèces de trucs en céramique blanc, deux ovales à 45 degrés, et évidemment, vous pensez bien qu'un artiste ne parlait pas d'excréments. Un artiste, en ce début de XXe siècle, encore très hostile au corps, il ne parlait jamais d'excréments. Un artiste se devait, en particulier, de mettre la main à ses œuvres. Or, là, quand Duchamp choisit avec soin un objet dont personne ne peut penser qu'il y a mis la main, un urinoir, à l'évidence sorti d'une usine, quand Duchamp expose cet objet laid, voué à une fonction méprisée à laquelle il n'a contribué strictement rien, quand Duchamp fait ça, il veut contraindre le public à se demander, mais enfin, que suis-je censé admirer devant cette horreur, de façon à ce que le public en vienne à se penser, qui suis-je censé admirer ? Duchamp espérait que le public se révolterait contre l'évidente escroquerie. Non pas celle que Duchamp commet à ce moment-là, elle est justement trop évidente, mais celle, beaucoup plus générale, qui exige que simplement parce que les autorités artistiques, dans ce cas-là, ont exposé dans une exposition, dans un musée, un objet, alors il faut admirer cet objet. Il faut plier le genou devant le choix des gens en place. Il faut renoncer à son goût personnel. Jamais, grince Duchamp. Marcel Duchamp, qui est quelqu'un d'extraordinairement important dans l'art moderne, avec cette urinoire, il frappe le spectateur. Mais il le frappe comme on frappe dans le dos quelqu'un qui a avalé de travers pour qu'il recrache.
Le fait que Marcel Duchamp utilise justement la technique du ready-made pour des objets que tout le monde peut trouver dans le commerce, etc., est-ce que ça ne vient pas, ou ça n'a pas été influencé, on va dire, par son voyage aux États-Unis ?
Oui et non. En fait, ce qui va se passer, c'est que Duchamp va aller aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, la France l'agace. La France l'énerve, la France est encore trop conservatrice. Et Duchamp a une relation un petit peu curieuse avec les autres artistes, entre guillemets, subversifs. Souvenons-nous que les surréalistes aurait adoré que Duchamp entre dans leur rang, il s'y est toujours refusé. Duchamp, il est lui-même, il fait ce qu'il veut. Duchamp vient d'une famille bourgeoise, il est parfaitement lucide quant aux hypocrisies bourgeoises, il est parfaitement lucide quant au mauvais côté du capitalisme, mais à nouveau, il est Duchamp, il est lui-même, point. Aux États-Unis, il va gagner beaucoup d'argent, nettement plus que ce qu'il aurait pu gagner en France. Paradoxalement, il va être admiré, bien sûr critiqué, mais également admiré. Et puis, je pense que, oui, bien sûr, il est un peu aussi fasciné malgré tout par l'univers industriel, par la technologie. Je ne le sens pas très écolo, le bon père Duchamp. Et puis, enfin, souvenons-nous qu'il avait une autre passion dans la vie, c'est qu'il jouait aux échecs. Il était très très bon, je ne sais plus s'il n'a pas atteint le niveau de grand maître, mais en tout cas, il a fait des livres d'échecs. Et donc, je pense qu'aux États-Unis, il devait se sentir totalement libre, parce que hors de toute compétition franco-française, ou en tout cas parisiano-parisienne, de statut d'artiste. Je présume que c'est y a de ça dans le choix américain de Duchamp.
D'abord, c'est le choix états-unien.
Pardon.
Quand même, je veux dire, quand il était, par exemple, à New York, il était en lien avec beaucoup d'autres...
Bien sûr.
Surréalistes qui sont venus le voir, hein. je crois que c'est Picabia.
Alors attends, il y a deux moments. Duchamp voyage. Il y a des gens qui...
Et d'autre part,
oui.
si je peux ajouter ça, je pense qu'aussi le fait qu'il est allé là-bas avant la Première Guerre mondiale, ou plutôt avant l'entrée des États-Unis, c'est-à-dire 1917, dans la Première Guerre mondiale.
À nouveau, je crois qu'il y a vraiment un effet de libération d'un univers qu'il perçoit comme étroit. En 1917, des tas d'artistes étrangers vont percevoir Paris comme le lieu où eux peuvent être libres. Mais si toi, tu es français, et Duchamp était franco-français d'une famille d'artistes, les autres Duchamp, ses frères, son père, sont des artistes. Donc pour lui, partir de Paris, c'est une libération. Et bien entendu, on peut se dire, nous, mais s'il va à New York, s'il va aux États-Unis, mais il va chez les barbares du point de vue artistique, ben, ça peut être très libérant, très libératoire d'aller chez les barbares. Il s'en est pas beaucoup expliqué, mais à mon avis, c'est le même phénomène qui va pousser à l'inverse des Américains comme James Joyce, comme Hemingway et compagnie à venir à Paris. C'est le même phénomène qui va pousser, juste après la Seconde Guerre mondiale, tout un tas de musiciens noirs, états-uniens, de jazz, à venir à Paris parce que c'était infiniment moins raciste que dans leur propre pays. Je pense qu'on a un peu de mal à accepter l'idée qu'un artiste aussi créateur, aussi fin, aussi sophistiqué que Duchamp puisse aller chez les barbares.
Mais en fait, il est allé à New York, donc on ne peut pas dire que c'est les barbares, parce que là-bas, c'est vraiment une grande ville. Ils sont d'abord tous impressionnés par l'architecture, qui, s'il n'y a pas vraiment d'école artistique, en tout cas, du côté d'architecture, il y avait vraiment déjà beaucoup de choses intéressantes.
Et puis, à mon avis, il y avait un autre phénomène qui n'était pas présent à Paris. New York était déjà une ville cosmopolite.
C'est ça.
Paris, c'était vraiment français. Alors, dans le micro-milieu des artistes, mais là, on parle de quoi, de 300 personnes, il y avait effectivement des tas de nationalités différentes. Mais dès qu'on sortait, on était à Paris. Et à nouveau, Duchamp, c'est quelqu'un, c'est un Parisien, c'est un franco-français. Il va à New York, évidemment, là, tout d'un coup, paf, il est exposé au grand vent de l'univers, au grand vent de la planète, ça part dans tous les sens, ça discute, ça fait beaucoup de choses. Donc je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y est allé.
Thank you.
Revenons à nos donc deux méthodes opposées pour détruire la hiérarchie entre l'artiste en haut au-dessus et le public en bas en dessous. La deuxième méthode opposée à celle qui consiste à détruire ou à rabaisser l'artiste, eh bien, c'est élever des productions de gens qui ne sont pas vus comme des artistes. Et qui va faire ça? Eh bien, c'est Dubuffet. Alors à nouveau, Dubuffet, c'est comme Duchamp, il y a un paradoxe. Dubuffet, qui est quelqu'un qui va acquérir sa célébrité, son statut dans l'histoire de l'art, justement par le fait qu'il va élever les productions des fous, des pauvres, des ignorants, des illettrés au niveau des artistes officiels. Dubuffet est un grand bourgeois. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, et c'est quelqu'un qui commence dans la vie en étant marchand de vin. Pas du velours de l'estomac, hein, du marchand de vin de très haut niveau. Bon, cela dit, au bout d'un moment, il décide qu'il a quand même mieux à faire, et c'est lui qui va donc à la fois pratiquer et lancer l'art brut. Alors qu'est-ce que c'est que l'art brut? Donc c'est l'art des fous, les vrais fous, hein, ceux qui pourrissent dans les asiles psychiatriques, ou ceux qui vaticinent au fond d'une ferme en vivant de la charité de leurs voisins. L'art des illettrés qui n'ont reçu aucune éducation formelle et surtout pas une éducation artistique. Et lui-même va, à l'opposé de son niveau extrêmement élevé de culture, il suffit de le lire et de lire son français extrêmement raffiné, extrêmement élégant pour se rendre compte que c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé. En revanche, il va faire des peintures qu'il va essayer de rendre les plus brutes possibles. Alors je vous rappelle qu'il est parmi l'un des premiers artistes, par exemple, à utiliser directement sur la toile des matériaux jusque-là méprisés, le sable, des cailloux, de la boue, hein, qui va coller sur sa peinture, et en même temps, ironie, il va les encadrer, comme une belle boîte de Seine exposée au Louvre, mais il va faire, et puis il va dessiner des formes qui à dessein sont des formes enfantines, encore plus enfantines que par exemple ce que faisait Picasso. À ce moment-là, il faut mentionner un artiste étrange, un entre-deux, un homme moi qui me fascine parce que finalement mieux peut-être que Dubuffet et Duchamp, il réussit à impliquer le public, à impliquer qui regarde, à brouiller cette hiérarchie entre artiste et public. Qui est-ce ? Calder. Calder, au départ, c'est un ingénieur. Un vrai ingénieur. Hein. Le genre de bonhomme qui fait des équations sur la résistance des matériaux. Et en même temps, sculpteur. Et l'une des choses que va faire Calder, c'est qu'il va créer, pas seulement les mobiles magnifiques que tout le monde connaît, il va créer ces drôles de petites sculptures en fil de fer. Vous les avez peut-être vues, par exemple, à Beaubourg, où vous avez un visage, par exemple. Et ce visage, il est rendu en trois dimensions, donc c'est bien une sculpture, mais il ressemble en même temps à quelque chose en deux dimensions, parce qu'il n'est rendu qu'avec un simple fil de fer qui se limite à dessiner une silhouette. Mais en plus, c'est du fil de fer. C'est un matériau pas cher du tout. Tout le monde peut s'acheter 5 mètres de fil de fer. C'est beaucoup moins cher que le marbre ou la peinture à l'huile, hein, qui sont des techniques qui coûtent extrêmement cher. Et en même temps, tout dans l'œuvre de Calder est toujours souriant. Calder, c'est un artiste modeste, sans humilité masochiste, mais c'est quelqu'un de simple qui se met au niveau immédiatement de tout le monde, à la fois des gens les moins connaisseurs de l'art et les gens les plus connaisseurs, les plus sophistiqués. Et comment est-ce qu'il fait ça? Ben c'est très simple. Quand vous faites une sculpture avec juste quelques lignes de fil de fer, quel est le degré de participation de la spectatrice et du spectateur dans cette œuvre? Mais il est énorme, c'est presque tout. Parce que qu'est-ce que fait le public devant ces petites sculptures en fil de fer? Eh bien, le public remplit tout. Le fil de fer, il donne juste une idée, il suggère. Et c'est nous, le public, qui remplissons. Et incidemment, là encore, on peut se poser la question, ces œuvres en fil de fer sont des signes ou ce sont des représentations. Bien malin, qui pourra le décider. De nos jours, l'art moderne, c'est comme un feu d'artifice. Ça part dans toutes les directions. C'est bien pour ça qu'on a du mal à le comprendre, parce que quand on explore une terre nouvelle, ben, on n'en possède pas la carte. Chaque artiste affirme avoir créé ses propres signes. C'est au public de les apprendre. Mais nous, le public, nous pensons que c'est à lui de nous prouver que son œuvre vaut la peine, que nous essayons de comprendre les signes qu'il nous présente. Quels exemples ? Prenons le land art. Alors, le land art, c'est de l'anglais. Ça veut dire land, c'est la terre, c'est le pays. Et pour le land art, la boîte de scène, c'est la terre elle-même. Puisque en anglais, land, ça signifie terre non seulement au sens de terre natale, mais aussi au sens de terres agricoles, par exemple. Donc, la boîte de scène, le tableau, s'est étendu jusqu'à devenir le sol, le paysage. Alors l'œuvre, dans le land art, ça sera une modification, petite ou grande, que l'on va infliger à ce paysage.
Infliger, c'est le bon mot.
Infliger, c'est le bon mot.
Par rapport à ce dont tu vas nous parler.
Infliger, c'est ça. Mais très souvent, le Land Art, c'est vraiment, on inflige quelque chose, mmh, quelque chose à un paysage. L'œuvre de Land Art la plus célèbre a été faite par un États-Unien appelé Monsieur Robert Smithson et dans les eaux du Great Salt Lake, le Grand Lac Salé, dans l'Utah, en 1970, sur le rivage, il va lancer une jetée. Alors ça s'appelle le Spiral Jetty, la jetée en spirale. Donc c'est effectivement une jetée de pierre et de taille, de forme de spirale, comme une crosse d'évêque. Ça démarre donc du rivage et puis ça entre dans le lac. Mine de rien, c'est 460 mètres. Donc c'est un peu pour ça aussi que je parle d'infliger. On a tout fait dans le Land Art. On a par exemple peint en bleu vif, un vrai bon bleu qui tape, des rochers du Sahara. Quelque chose qui connaît un gros succès sur les petites vidéos de YouTube. On empile des pierres les unes sur les autres. Alors il y a eu des artistes avec un grand A majuscule qui ont fait ça, et maintenant c'est devenu même une forme de méditation. On a construit des cabanes de branchage, on a fait tout ce qu'on a pu à cette pauvre terre. Mais cette idée de gonfler la boîte de Seine jusqu'à ce qu'elle absorbe le monde extérieur, elle a pris une forme un peu différente chez un artiste qui agace beaucoup de monde et qui souvent m'agace moi-même, mais dont je trouve parfois les œuvres intéressantes. Attention, Daniel Buren. Ah, Daniel Buren, le gars haï de la droite quand il a fait ses fameuses colonnes au Palais Royal. Daniel Buren, c'est quelqu'un qui sort de l'école des métiers d'art, mais en 1965, il rencontre Dieu. Non, Dieu sous la forme de la toile vendue à la Samaritaine pour les tentes de Garden Party. Belle toile aux rayures blanches et vertes. Buren, tout jeune, décide que cette alternance de raies blanches et colorées, chacune d'exactement 8,7 cm de large, sera désormais son outil visuel. En d'autres termes, quelle que soit son œuvre, il la construira à partir de raies alternativement blanches et colorées, toutes de 8,7 cm de large. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Première chose, parce que la main de l'artiste, la main, semble disparaître, parce que si c'est toujours des raies de 8,7 cm de large, on se dit, mais il n'y a plus le tour de main. Cette touche si plaisante, si importante, si parlante, dans les œuvres de Rembrandt, une main nourrissante, la main de Fragonard, éblouissante, de Van Gogh, angoissante, de Pollock, dansante, cette main disparaît. Alors, si elle disparaît, qu'est-ce qui la remplace? Le lieu où s'implante l'œuvre. Parce que Buren, plus puritain qu'on ne croit, décide que son œuvre ne va pas exalter elle-même, ne va pas exalter l'artiste, elle va exalter le lieu pour lequel elle est créée. Alors évidemment, il y aura des gens qui vont dire qu'au lieu d'exalter le lieu, elle la saccage. Moi, je vais donner un exemple qui m'a fait un peu changer d'avis, même beaucoup changer d'avis à propos de Buren. Qui est ce qu'il a fait sur la fondation Louis Vuitton, quand tout d'un coup, il a posé ses fameuses raies sur le bâtiment de Guéry. Alors j'adore le bâtiment de Guéry, je trouve que c'est absolument magnifique. Et au départ, j'étais très choqué. Je me disais, mais ça donne un aspect de bonbon au chef-d'œuvre de Guéry. Et puis, il a fallu que j'entre dans le bâtiment pour raisons professionnelles. Et tout d'un coup, les ombres colorées que ça a créées étaient magiques. Et mes yeux se sont dessillés, si j'ose dire, et je me suis rendu compte que la Buren avait vraiment, dirions-nous, amélioré, oui, peut-être, en tout cas, il avait joué au même niveau que Guéry.
Dommage qu'il n'ait pas fait ses fameuses raies sur l'Arc de Triomphe ou sur Notre-Dame, ça aurait été parfait.
Alors moi, personnellement, c'est un peu ça que je regrette. Alors Buren, je ne suis pas très sûr qu'il soit très anarchiste ou très subversif, mais c'est sûr qu'il y aurait des choses très très drôles à faire. Tu parles donc de Notre-Dame ou de l'Arc de Triomphe, et moi j'imagine les raies de Buren dans le Panthéon.
Oui, au Sacré-Cœur.
Le Sacré-Cœur, ça serait prodigieux, le Sacré-Cœur. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de drôle dans le Sacré-Cœur? Là, Buren va juste nous servir d'exemple pour tirer encore trois autres principes, qui sont apparemment des principes de l'art moderne, mais qui sont en fait des principes de tout art, même longtemps avant l'art moderne. Premier principe, il y a plus de plaisir plus de gloire, plus de jeu, plus de brio, à triompher de règles strictes qu'à ne faire que ce que l'on veut. C'est beaucoup plus impressionnant d'écrire un sonnet avec des règles tellement compliquées, tellement strictes, et malgré tout, de produire un texte libre fascinant, que tout simplement d'écrire un poème en vers libre. C'est très bien, les poèmes en vers libre. Mais il y a quelque chose en plus, si on a réussi à être tout aussi libre dans un sonnet que dans un poème en vers libre. Quand Buren s'impose à lui-même cette règle démentielle que de toute sa vie, pour toutes ses œuvres, intégralement toutes ses œuvres, il ne travaille qu'avec des bandes de couleurs de 8,7 cm de large, eh bien, on peut être très impressionné par le brio avec lequel il se tire du handicap qu'il se met lui-même. J'en veux pour exemple également quelque chose, pardonnez la digression, qui se passe aussi en musique. Depuis maintenant 70 ans, on a un instrument extraordinaire qui s'appelle un synthétiseur. Le synthétiseur, si la liberté totale était la vraie matrice de l'art, le synthétiseur aurait dû révolutionner complètement la musique. Or, très franchement, est-ce qu'en 2022, quelqu'un produit de la musique aussi fabuleuse que celle, par exemple, de Bach? Et Bach, c'est quelqu'un qui obéit à des règles monstrueusement strictes. Une fugue, c'est très, très, très strict. Trop de règles tue l'art. Le seul respect des règles tue l'art, mais l'absence complète de règles tue l'art aussi. C'est un peu compliqué. Pourquoi est-ce que l'absence complète de règles tue l'art? Le très célèbre historien d'art Gombrich enseigne qu'une bonne œuvre d'art mène son public par trois phases successives. Première phase, l'attente. L'artiste pose une règle, justement, et le public, comprenant cette règle, s'attend à ceci ou cela. Deuxième phase, la surprise. L'artiste déconcerte le public en répondant à son attente de manière inattendue, plus créative, plus neuve que celle que prévoyait le public. La satisfaction ou résolution, c'est la troisième phase. L'artiste prouve au public que la manière par laquelle il a répondu à l'attente suit bien la règle qui avait été posée au départ. Alors incidemment, les philosophes ont peut-être reconnu la structure thèse, antithèse, synthèse. Et cette structure, en trois phases, elle s'appuie sur des caractéristiques psychologiques humaines qui sont absolument universelles et qui vont bien au-delà du seul domaine de l'art. Première caractéristique humaine, notre capacité innée et essentielle à notre survie de détecter l'ordre au milieu du désordre, l'information utile au milieu du bruit inutile, les régularités au milieu du hasard. Du point de vue de l'évolution, du point de vue de la survie de l'espèce humaine, les plantes comestibles au milieu de la jungle, les traces d'animaux au milieu de la boue. Autre mécanisme sur lequel s'appuie ce système-là, notre goût de la nouveauté, notre curiosité, c'est-à-dire justement ce qui nous pousse à vouloir détecter l'ordre au milieu du désordre, à vouloir détecter la régularité au milieu du hasard. Et bien entendu, tout ceci se base sur notre goût de la sécurité, puisque détecter l'ordre au milieu du désordre, eh bien, on le fait pour finalement obtenir notre sécurité et notre satisfaction.
Into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You facts when someone attacks your imagination, but nobody has any respect anyway. They already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations. You've been with the professors and they've all liked your looks. With great lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. And he says, here is your throat back, thanks for the loan. And you know something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now, you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? The room like a camel and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones, 'cause something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? ¶¶
œuvre d'art qui est produite sans aucune règle. C'est une œuvre d'art sans défi. Donc c'est une œuvre d'art sans danger. Un artiste qui prend le risque de jouer avec des règles, il s'expose au mépris, au rire, à la critique, au rejet. Alors, nous regardons cet artiste en train d'essayer de nous séduire, de nous convaincre, avec ce même mélange de sadisme et d'admiration qui accueillait les gladiateurs dans les arènes romaines. Eh bien, le gladiateur qui survivait, très souvent, on lui donnait sa liberté. L'artiste qui survit à son propre défi, il gagne notre respect, voire notre admiration.
Et elle aussi, la femme artiste aussi.
Ah ben là, l'artiste, c'était évidemment la femme artiste, la dame. Et en plus, dans les sociétés patriarcales, c'est-à-dire dans 98% des sociétés humaines, en plus, la femme artiste gagne encore plus de respect, puisqu'il y a, la difficulté sociale qu'ont des femmes à devenir des artistes socialement reconnus. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Nous avions parlé surtout de Kandinsky. Kandinsky, donc l'inventeur de la peinture abstraite en 1911. Même s'il y a des gens qui disent que Picabia a fait une œuvre abstraite un peu. Bref, on s'en fiche. On va dire que l'art moderne, vraiment, a changé complètement à partir de 1911. Et il va cultiver quatre principes essentiels. Premier principe. Un véritable artiste, un artiste authentique, invente ses propres signes. Je m'explique. Les peintres-pompiers, tellement détestés des impressionnistes et puis des peintres modernes, peignaient tous avec, en gros, les mêmes signes. D'ailleurs, ils voulaient montrer le moins possible des signes dans leur peinture parce qu'ils essayaient de n'être que représentation. Mais après eux, la représentation comptant de moins en moins, pesant de moins en moins dans l'œuvre, ce qui importe, c'est de trouver des signes que personne n'a trouvés avant. Deuxième grand principe. L'une des manières d'inventer ses propres signes va consister à inventer sa propre manière, sa manière personnelle, de renouveler ou assassiner la boîte de scène. Cette boîte de scène dont nous avons longuement parlé dans l'émission précédente. Alors je vais vous donner trois exemples. L'un des artistes les plus décriés par les personnes qui n'aiment pas l'art moderne, c'est un Italien, Fontana. Et Fontana, il a peint, repeint, refait, mille fois refait, quelque chose qu'il appelait concetto spaziale, concept spatial. Et très franchement, qu'est-ce qu'il fait le Fontana avec son concept spatial? C'est très simple. Il prend une toile, il place de la peinture dessus, monochrome, et puis avec un couteau, flaf, il fait une balafre dedans. Bref, le jeu de Fontana avec la boîte de scène, ça consiste à prendre ce qui fut le support de la boîte de scène, la toile plate, et rappeler qu'elle était un mensonge, puisqu'en fait elle n'était pas plate, mais bien en trois dimensions, pas deux. Une toile, c'est quand même un peu épais. Et donc la preuve des trois dimensions de la toile, c'est qu'on peut la trouer. Bon, tout à fait entre nous, vous allez me dire, c'est de la distillation d'essence de quintessence. On est bien d'accord, et Fontana n'est pas un homme si important, mais en revanche, pour nous, pour comprendre, ça permet d'être un peu plus clair. Un autre artiste qui a su assassiner la boîte de scène à sa propre manière, c'est le Hollandais Escher. Escher, tout le monde connaît, c'est cet artiste qui fait des drôles de scènes où on ne sait plus ce qui est le haut, le bas, la droite, la gauche, où on voit des escaliers qui débouchent sur d'autres escaliers qui retombent et qui remontent et puis qui retombent et puis qui remontent mais dans l'autre sens et qui repartent encore ailleurs, où ces mains qui dessinent une main, qui dessinent une main, qui dessinent une main, qui dessinent cette main, qui dessinent la même main, qui dessinent... Et ce que fait Escher, c'est que il semble imbriquer deux, trois, quatre univers différents. En fait, il imbrique deux, trois, quatre boîtes de scène différentes. Encore un artiste pas très très connu, disons, en dehors du public fanatique ou du public des connaisseurs, le français Jean-Pierre Reynaud. Et Jean-Pierre Reynaud, il a déposé à Beaubourg une œuvre qui est l'une des rares œuvres qu'on expose toujours. Vous savez que Beaubourg change son accrochage à peu près tous les 18 mois, mais cette œuvre de Jean-Pierre Reynaud, elle est toujours là. Et qu'est-ce que c'est? C'est un container. Un quoi? Ben oui, un container. Ces grosses boîtes qu'utilisent les cargos pour transporter toutes les marchandises possibles. Donc c'est un objet standardisé. Mais c'est donc une boîte. Et évidemment, Jean-Pierre Reynaud voulait là jouer sur l'idée de la boîte de scène, d'autant plus que son conteneur, il est toujours présenté ouvert, mais ouvert d'un seul côté. Et dedans, eh bien Jean-Pierre Reynaud avait déposé des carreaux de céramique blanche, mais de telle façon que ça évoque irrésistiblement une scène de théâtre. Cette œuvre de Jean-Pierre Reynaud, c'est exactement une boîte de scène. Troisième principe. De ces deux principes qui sont sur les signes, eh ben on va déduire le troisième. Si un, il faut inventer ses propres signes. Deux, s'il faut triturer, massacrer, développer, imbriquer la boîte de scène, alors beaucoup d'artistes modernes vont se lancer dans des créations qui délibérément vont mélanger signes et représentations, voire, encore mieux ou encore pire, délibérément engendrer la confusion entre les deux. C'est-à-dire qu'on va créer des éléments visuels dont on va se demander « mais c'est une représentation ou c'est un signe ?» Vous allez me dire « mais attendez, c'est pas, on ne peut pas les confondre. » Oh que si. Vous voyez Keith Haring, ce gars qui venait de l'art du tag et qui fait toujours le petit bonhomme en silhouette. Attendez, ce petit bonhomme en silhouette, c'est un logo ? Ou c'est une représentation? C'est un signe ou une représentation? Quand Jasper Jones peint un drapeau américain, ou quand il peint un chiffre 5, en général avec la même police de caractère que sur les billets de 5$ américains, il peint une représentation ou un signe? On ne sait pas très bien. Quand Georges Mathieu, le peintre réac, quand il peignait ses éclairs et ses sabres, ou, souvenez-vous peut-être, quand il les transformait en images de la France sur les pièces de 10 francs, c'était une représentation ou un signe? Délibérément, on ne peut pas choisir. Et donc on peut énoncer ce troisième principe autrement, on peut dire... Il n'y a plus de monopole de la représentation n'est plus qu'une modalité de l'art parmi beaucoup d'autres, et on peut la mélanger avec tout ce qu'on veut. Thank you. dernier principe. Comme nous en avons déjà parlé dans la première émission, ce que veut l'art moderne, c'est de recruter la personne qui voit, de recruter les spectatrices, les spectateurs, de les forcer à jouer leur rôle de second créateur et créatrice. Et paradoxalement, ce désir intense d'impliquer les spectatrices, d'impliquer les spectateurs, donc d'entrer en rapport avec ces gens qui regardent, eh bien, paradoxalement, ça va donner naissance aux formes d'art qui vont provoquer les protestations les plus stridentes contre l'art moderne. En particulier, les happenings. Alors, ça se fait plus beaucoup, ça se faisait beaucoup dans les années 60, dans les années 70, où ça choquait le bourgeois. Qu'est-ce qui se passait? On voyait l'artiste, femme, homme, ça, c'était encore plus violent évidemment quand c'était une femme, qui déféquait, qui répandait son propre sang, hein, qui se mutilait, qui se faisait saigner en public, qui vomissait, qui souffrait en public. Pourquoi? Parce qu'il voulait, elle et il voulait, s'adresser à ce que nous avons tous en commun, ce qui est en nous le plus profond, mais donc aussi le plus partagé, le corps. Mais qui veut faire l'ange, fait la bête.
Qui concerne les happenings, effectivement, c'est les années 60 et 70 où c'était quelque chose de très fort. Avec, bon, il y avait Living, il y avait tout ça. Mais ça a commencé avec les surréalistes et alors, les dadaïstes.
Déjà,
ils faisaient déjà des happenings. On ne les appelait pas comme ça, mais bon.
On va dire la seule différence entre les happenings des surréalistes dadaïstes d'une part et les happenings, on va dire, explicites des années 60 et 70, c'est que le but était donc légèrement différent. Avec les dadaïstes et les surréalistes, il s'agissait d'exploser tous les cadres, donc également d'exploser le fait qu'une œuvre était censée être une œuvre pérenne, éternelle, Alors qu'un happening, c'est un événement, donc c'est éphémère, ça va disparaître. Et il y avait moins ce désir d'entrer en communication directe avec le corps des gens qui regardent. C'était présent, mais c'était beaucoup moins central que ça ne l'a été dans les happenings des années 60-70, et puis également dans les happenings d'une artiste célèbre pour ça, Marianna Abramović, dont on sait qu'elle a fait des tas de choses extrêmement douloureuses pour elle, et par conséquent également douloureux pour les gens qui regardent, puisque nous les êtres humains, notre cerveau est équipé de neurones miroirs, qui sont la base de l'empathie, et quand on voit quelqu'un souffrir, si on n'est pas totalement psychopathe, normalement, on se sent en un sens souffrir aussi.
Dans un certain sens, les deux formes, disons, de happening, c'est-à-dire des surréalistes dadaïstes, c'est-à-dire dans les années 20, et ensuite celles qui ont commencé avec le Living Theater, etc., dans les années 60 et 70, pas cette période dont tu parles, qui est après, venue après. Mmh. Au tout départ, les deux étaient profondément politiques, c'est-à-dire que ça remettait en question les normes, comme tu as dit, mais pas seulement les normes visuelles, mais aussi les normes
sociales, politiques. Voilà. Alors, à nouveau, on pourrait le dire vulgairement, il s'agissait de choquer le bourgeois. Très clairement, dans les deux cas, il s'agissait de choquer le bourgeois. Mais souvenons-nous que, par exemple, dans les années 50 et 60, la répression sexuelle, le patriarcat, le statut des femmes, tout ça est encore relativement incontesté, en tout cas du point de vue officiel. Et puis tout d'un coup, grâce entre autres au happening, tout d'un coup voilà des gens qui disent « mais désolé, la sexualité existe, la sexualité est montrable, la sexualité est également violente, elle peut être également vécue par des opprimés et ES ». Et donc là, c'est évident, les happenings ont tous eu une volonté politique très claire. Attention, cela dit, il y a eu des artistes qui ont mal tourné. En particulier, il y a eu un artiste allemand qui faisait des actions et qui a terminé en gros en secte, où il y a eu des tonnes d'abus sexuels sur des mineurs, sur des tas de gens.
Ça n'était pas au départ, si tu veux, la motivation non. essentielle. La motivation, elle était essentiellement politique de remettre, elle était subversive.
Dans les deux cas, complètement.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les deux cas, il y avait le happening, c'est-à-dire en expression directe auprès d'un public, mais il y avait en même temps, et dans les deux cas, que ce soit dans les années 20 ou avec les années 60 et 70, il y avait le cinéma. Et à travers le cinéma, on voit certaines scènes qui ont été filmées, etc. C'est une sorte de continuation du happening. C'est une autre forme de contestation, que ce soit donc à travers la peinture, que ce soit à travers les mots, que ce soit à travers le cinéma, etc. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait feu de tout bois. Théâtre.
En plus, l'expression faire feu est là tout à fait pertinente. Alors, justement, une conséquence fréquente de cette motivation politique d'impliquer la personne qui regarde, eh bien, ça implique donc de détruire la hiérarchie entre l'artiste en haut, au-dessus, et la spectatrice, le spectateur en bas, en dessous. Pour détruire cette hiérarchie, va y avoir, entre autres, deux méthodes opposées. Une première méthode, ça va être de détruire la majesté de l'artiste, ça va être d'abaisser l'artiste. Et la méthode exactement inverse, ça sera d'élever les productions des créatrices et des créateurs non professionnels, non reconnus, de les élever au statut d'œuvre d'art. C'est Marcel Duchamp qui, le premier, va saper la majesté de l'artiste en sapant la majesté de l'œuvre d'art. Comment ? Eh bien, grâce à ces très célèbres ready-made, donc un ready-made, c'est ce qui est déjà fait, déjà fabriqué, qui vont faire, à très juste titre, scandale, quand on pense que c'est en 1917, qu'il envoie, enfin tout plus exactement, qu'il tente d'exposer à la Société des artistes indépendants un urinoir industriel, ces espèces de trucs en céramique blanc, deux ovales à 45 degrés, et évidemment, vous pensez bien qu'un artiste ne parlait pas d'excréments. Un artiste, en ce début de XXe siècle, encore très hostile au corps, il ne parlait jamais d'excréments. Un artiste se devait, en particulier, de mettre la main à ses œuvres. Or, là, quand Duchamp choisit avec soin un objet dont personne ne peut penser qu'il y a mis la main, un urinoir, à l'évidence sorti d'une usine, quand Duchamp expose cet objet laid, voué à une fonction méprisée à laquelle il n'a contribué strictement rien, quand Duchamp fait ça, il veut contraindre le public à se demander, mais enfin, que suis-je censé admirer devant cette horreur, de façon à ce que le public en vienne à se penser, qui suis-je censé admirer ? Duchamp espérait que le public se révolterait contre l'évidente escroquerie, non pas celle que Duchamp commet à ce moment-là, elle est justement trop évidente, mais celle, beaucoup plus générale, qui exige que simplement parce que les autorités artistiques, dans ce cas-là, ont exposé dans une exposition, dans un musée, un objet, alors il faut admirer cet objet. Il faut plier le genou devant le choix des gens en place. Il faut renoncer à son goût personnel. Jamais, grince Duchamp. Duchamp, qui est quelqu'un d'extraordinairement important dans l'art moderne, avec cette urinoire, il frappe le spectateur. Mais il le frappe comme on frappe dans le dos quelqu'un qui a avalé de travers pour qu'il recrache.
Le fait que Marcel Duchamp utilise justement la technique du ready-made pour des objets que tout le monde peut trouver dans le commerce, etc., est-ce que ça ne vient pas, ou ça n'a pas été influencé, on va dire, par son voyage aux États-Unis ?
Oui et non. En fait, ce qui va se passer, c'est que Duchamp va aller aux États-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, la France l'agace. La France l'énerve, la France est encore trop conservatrice. Et Duchamp a une relation un petit peu curieuse avec les autres artistes, entre guillemets, subversifs. Souvenons-nous que les surréalistes auraient adoré que Duchamp entre dans leur rang. Il s'y est toujours refusé. Duchamp, il est Duchamp, il est lui-même, il fait ce qu'il veut. Duchamp vient d'une famille bourgeoise, il est parfaitement lucide quant aux hypocrisies bourgeoises, il est parfaitement lucide quant au mauvais côté du capitalisme, mais à nouveau, il est Duchamp, il est lui-même, point. Aux États-Unis, il va gagner beaucoup d'argent, nettement plus que ce qu'il aurait pu gagner en France. Paradoxalement, il va être admiré, bien sûr critiqué, mais également admiré. Et puis, je pense que oui, bien sûr, il est un peu aussi fasciné malgré tout par l'univers industriel, par la technologie. Je ne le sens pas très écolo, le bon père Duchamp. Et puis, enfin, souvenons-nous qu'il avait une autre passion dans la vie, c'est qu'il jouait aux échecs. Il était très très bon, je ne sais plus s'il n'a pas atteint le niveau de grand maître, mais en tout cas, il a fait des livres d'échecs. Et donc, je pense qu'aux États-Unis, il devait se sentir totalement libre, parce que hors de toute compétition franco-française, ou en tout cas parisiano-parisienne, de statut d'artiste. Je présume que c'est y a de ça dans le choix américain de Duchamp.
D'abord, c'est le choix états-unien.
Pardon.
Quand même, je veux dire, quand il était par exemple à New York, il était en lien avec beaucoup d'autres surréalistes qui sont venus le voir. Hein. Je crois que c'est Picabia.
Alors, attends. Il y a deux moments. Duchamp voyage. Il y a des gens qui...
Et d'autre part,
oui.
si je peux ajouter ça, je pense qu'aussi le fait qu'il est allé là-bas avant la Première Guerre mondiale, ou plutôt avant l'entrée des États-Unis, c'est-à-dire 1917, dans la Première Guerre mondiale.
À nouveau, je crois qu'il y a vraiment un effet de libération d'un univers qu'il perçoit comme étroit. En 1917, des tas d'artistes étrangers vont percevoir Paris comme le lieu où eux peuvent être libres. Mais si toi, tu es français, et Duchamp était franco-français d'une famille d'artistes, les autres Duchamp, ses frères, son père, sont des artistes. Donc pour lui, partir de Paris, c'est une libération. Et bien entendu, on peut se dire, nous, mais s'il va à New York, s'il va aux États-Unis, mais il va chez les barbares du point de vue artistique, ben, ça peut être très libérant, très libératoire d'aller chez les barbares. Il s'en est pas beaucoup expliqué, mais à mon avis, c'est le même phénomène qui va pousser à l'inverse des Américains comme James Joyce, comme Hemingway et compagnie à venir à Paris. C'est le même phénomène qui va pousser, juste après la Seconde Guerre mondiale, tout un tas de musiciens noirs, états-uniens, de jazz, à venir à Paris parce que c'était infiniment moins raciste que dans leur propre pays. Je pense qu'on a un peu de mal à accepter l'idée qu'un artiste aussi créateur, aussi fin, aussi sophistiqué que Duchamp puisse aller chez les barbares.
Mais en fait, il est allé à New York, donc on ne peut pas dire que c'est les barbares, parce que là-bas, c'est vraiment une grande ville. Ils sont d'abord tous impressionnés par l'architecture, qui, s'il n'y a pas vraiment d'école artistique, en tout cas du côté d'architecture, il y avait vraiment déjà beaucoup de choses intéressantes.
Et puis, à mon avis, il y avait un autre phénomène qui n'était pas présent à Paris. New York était déjà une ville cosmopolite.
C'est ça.
Paris, c'était vraiment français. Alors, dans le micro-milieu des artistes, mais là, on parle de quoi, de 300 personnes, il y avait effectivement des tas de nationalités différentes. Mais dès qu'on sortait, on était à Paris. Et à nouveau, Duchamp, c'est quelqu'un, c'est un Parisien, c'est un franco-français. Il va à New York, évidemment, là, tout d'un coup, paf, il est exposé au grand vent de l'univers, au grand vent de la planète, ça part dans tous les sens, ça discute, ça fait beaucoup de choses. Donc je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y est allé.